Les enjeux internationaux.
Et voici Thierry Garcin qui arrive. Bonjour Thierry.
Et bonjour Guillaume, bonjour. Donc le Liban comme prévu, les conséquences de la guerre civile syrienne. Notre invité donc Fouad Kouri-Hellou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, écrivain libanais. Vous étiez venu d'ailleurs nous parler d'un de vos ouvrages tout à fait passionnant qui s'intitule, et qui est paru chez Hermann, qui s'intitule « L'Amérique et le Moyen-Orient ». Alors on va parler du Liban. La première chose qui frappe évidemment, c'est le fait que le Liban reste profondément otage des puissances de la région. Depuis 49 ans, il est otage du conflit israélo-palestinien. On célébrera pas, mais on marquera le cinquantenaire des territoires occupés palestiniens et du Golan syrien d'ailleurs l'année prochaine, presque 50 ans. Et il est otage aussi du conflit interne syrien. On va voir comment le Liban a accueilli, vous allez me dire, peut-être plus d'un million de réfugiés.
Et puis,
Un million et demi. Il est otage aussi de l'Arabie Saoudite dans la région. L'Arabie Saoudite et les autres pays du Conseil de coopération du Golfe ont déclaré terroriste le Hezbollah chiite, accusé entre autres d'agiter la communauté chiite en Arabie Saoudite. Et puis Riyad a suspendu non pas le financement, mais vous me dites la livraison d'armement français acheté par Beyrouth. Enfin, on va parler de tout ça. Et quel regard générique porter sur la vue de Beyrouth sur la situation régionale?
Le nœud de la situation, c'est entre autres le conflit syrien, vu de Beyrouth en particulier, puisque la Syrie est notre voisin immédiat, notre grand voisin. Je dirais que le conflit syrien arrive à une croisée des chemins parce qu'il est totalement internationalisé aujourd'hui. Il n'appartient plus aux Syriens, il appartient aux puissances régionales, voire internationales dans le cas de la Russie, qui se font face sur le terrain. Et pour synthétiser la chose, je dirais que nous avons absolument besoin aujourd'hui d'une initiative de la communauté internationale emmenée par les États-Unis, qui reste l'acteur indispensable pour résoudre le conflit. Tant que cela ne sera pas fait, il y aura de la difficulté. Sur le terrain, les fronts commencent à se figer en Syrie et on peut difficilement voir sur le plan militaire encore une progression des choses dans un sens ou dans l'autre. Schématiquement, tout l'ouest du pays est contrôlé aujourd'hui par les forces alliées au régime. Donc le régime syrien, l'Iran et ses alliés et la Russie, tout cela forme un bloc pas très homogène, mais néanmoins allié militairement sur le terrain. Les rebelles dans l'ouest autour d'Alep et de Damas sont relativement neutralisés. Par contre, tout l'est de la Syrie et l'ouest de l'Irak, c'est une vaste zone qui est contrôlée par Daesh aujourd'hui. Alors, ça reste une hypothèque sur toute la région. Daesh reste... c'est une zone tampon entre la Syrie et l'Irak, mais également une zone tampon entre la Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite et la Russie. Tous ces acteurs se font face aujourd'hui.
Et souvent des alliances à front renversé d'ailleurs.
Oui, exactement, oui. Et puis on peut voir, par exemple, la Turquie a un enjeu... C'est un enjeu, je dirais, de vie ou de mort, pratiquement, parce que c'est la question kurde. Oui. Et il y a aujourd'hui une guerre civile larvée en Turquie, dans le sud-est de la... Il y a 20 millions de Kurdes, pratiquement, en Turquie, entre 15 et 20 millions. Et donc la création d'un État ou d'un canton kurde en Syrie, qui ferait suite à la création d'un mini-État kurde en Irak, serait la porte ouverte vers la partition de la Turquie. Et après tout ça...
Ça, c'est inacceptable, quoi qu'il en soit, pour Ankara.
Oui, c'est une question de vie ou de mort. Oui. C'est le démembrement de la Turquie.
Oui, on revient à 1923, traité de Sèvres, traité de Lausanne.
Exactement. La Turquie a toujours été... Pour l'Occident, je dirais, pour les puissances occidentales, c'était le barrage par rapport à l'Union soviétique. Donc aujourd'hui, est-ce que ce barrage doit céder ou pas? C'est une grande question qui affecte tout le continent asiatique. Donc on voit que
Il y a quand même une chose utile et positive, c'est qu'au tout début de la résolution du 18 décembre de l'année dernière, 2015, il est dit que l'intégrité territoriale, l'unicité de la Syrie est actée et sera préservée, parce qu'on n'est pas passé loin d'une partition quand même dans les mois récents. Et donc ça, c'est très important.
Oui, parce que ça signifierait...
C'est quand même l'ONU et le Conseil de sécurité.
Exactement, ça signifierait le maintien de l'intégrité territoriale de la Syrie, donc de l'Irak, de la Turquie et de... Donc, ce vers quoi on se dirige, la Russie a été très... Le ministre des Affaires étrangères russe a été très clair à ce sujet-là, c'est... La Russie a proposé une fédéralisation de la Syrie, mais dans les frontières actuelles, et de ne pas remettre en question ces frontières-là. Donc ça vaut pour tous les États de la région. On va chercher des arrangements locaux. Après, les différents acteurs, donc les acteurs principaux, c'est l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Turquie et la Russie, et puis derrière les États-Unis et l'Europe. Alors, vous parliez de l'Arabie Saoudite tout à l'heure par rapport au Liban. Enfin, pour l'Arabie Saoudite, le grand problème, c'est sa position sur l'échiquier futur. notamment vis-à-vis de l'Iran, qui est son grand rival géostratégique dans la région. Et donc, elle cherche à se placer aujourd'hui, elle cherche à se positionner en vue d'un règlement éventuel en Syrie. Donc, les contours commenceraient peut-être à se dessiner. Et pour cela, elle fait pression. Donc, elle fait notamment pression sur le Hezbollah, qui est le grand allié de l'Iran en Syrie et au Liban, et qui a permis de renverser un peu les choses sur le plan militaire. Donc, en prenant, il y a une résolution de l'Arabie Saoudite et du Conseil de coopération du Golfe qui vient d'être prise, qualifiant le Hezbollah d'organisation terroriste. Ça ne va pas plus loin que ça pour le moment. On est encore dans les paroles aujourd'hui. Là, il y a le contrat d'armement qui signé entre l'Arabie Saoudite, la France et le Liban, stipulé la livraison de 4 milliards de dollars d'armement au Liban. Pour l'instant, la production se continue en France et les autorités françaises l'ont dit clairement. Donc, c'est une épée de Damoclès, si vous voulez. Donc, pour l'instant, l'attitude saoudienne n'a pas viré vers la mise en place de mesures de rétorsion réelles et financières contre le Liban qui déstabiliserait le pays, clairement. Et donc, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que chaque acteur se positionne pour essayer de négocier au mieux la phase qui vient. L'Arabie saoudite le fait en menaçant le Hezbollah. L'Iran, qui s'est remis aujourd'hui en selle avec l'Occident, cherche également à positionner ses pions sur l'échiquier. Les élections en Iran aujourd'hui viennent de redonner de la force au courant de Rouhani, c'est-à-dire au courant réformateur, et qui a clairement dit qu'il cherche le compromis. La Russie a un discours qui est assez modéré finalement. Sur le terrain, elle a contribué militairement à faire pencher les choses en faveur de la survie du régime, du moins. Pas plus que cela, mais on voit bien qu'elle coopère beaucoup avec les États-Unis. Aujourd'hui, la clé, c'est, à mon sens, la clé, c'est que va faire la communauté internationale,
oui,
l'Occident.
Il y a un retour en force à la fois de l'ONU comme enveloppe, mais surtout des grands acteurs comme Washington et Moscou depuis septembre dernier.
Exactement. Et je crois que la Syrie a un scénario. C'est tout à fait le scénario d'un pays qui a besoin aujourd'hui d'une protection internationale ou d'un mandat international, entre guillemets, bien sûr, un peu comme la Bosnie. Un pays où les acteurs s'entretuent, mais où finalement personne n'a la solution au plan militaire. Personne ne peut emporter la solution.
Et puis la solution, on l'a dit, n'est pas militaire, de toute façon, y compris contre l'État islamique. La solution, elle est politique.
Exactement. Aujourd'hui, dans la région contrôlée par l'État islamique, il y a une résurgence des tribus arabes. Alors, c'est une stratégie qui avait été mise en place par les États-Unis en Irak en 2007. Ça s'appelle la Sahwa, c'est-à-dire le réveil. Donc, l'idée serait de... En fait, toutes les tribus sunnites qui peuplent la région entre Damas et Bagdad aujourd'hui sont une alternative à l'État islamique parce qu'elles ont une légitimité au plan politique et militairement, elles existent sur le terrain. Donc, si elles prenaient position contre l'État islamique, après cela, elles pourraient constituer une force sur le terrain qui, aidée par les frappes occidentales, pourrait faire pencher la balance. Et on irait dans ce cas vers une fédéralisation, aussi bien en Syrie qu'en Irak. Mais encore une fois, il faut rassembler toutes ces cartes. Et pour le faire, il faut rassembler les puissances régionales qui sont alignées autour de ces cartes-là. Et le seul interlocuteur de la Russie, de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, de la Turquie, qui puisse parler à toutes ces personnes à la fois aujourd'hui, ça reste Washington.
Voilà, mais écoutez, on y reviendra, on aura le temps hélas d'y revenir. Donc merci beaucoup Fouad de Courrier-Hilou, économiste, écrivain libanais. On peut encore une fois citer votre ouvrage « L'Amérique et le Moyen-Orient » aux éditions Hermann, franceculture.fr pour écouter l'émission, pour la télécharger. Nous parlerons de l'économie chinoise lundi prochain, Guillaume.
Merci.
Avec Claude Meyer.